Bienvenue à notre échange d'idées. Aujourd'hui, on va parler d'un outil qui fait bouger les lignes dans le monde du BIM Open Source, Bonsai.
Le dissident?
Oui, Bonsai. Le successeur, enfin, le nouveau nom de Blender BIM. C'est cet add-on pour Blender qui ambitionne de faire de la modélisation BIM nativement en IFC. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça évolue. Très vite.
Ah, ça, c'est sûr.
Très vite, c'est le mot. On a eu coup sur coup les versions V08.1 puis V08.2 avec à chaque fois une avalanche de nouveautés, de corrections. On parle de centaines, même de près de 2000 pour l'une d'elles. Alors la question qu'on se pose, c'est est-ce que ce rythme de développement, presque effréné, est avant tout une bonne chose? Est-ce que c'est ça qui va vraiment booster l'Open BIM et le rendre, disons, plus compétitif?
Ou est-ce qu'au contraire, cette espèce de course en avant, ça crée pas mal de problèmes?
Je pense à la stabilité, bien sûr, mais aussi à la complexité de l'outil. Est-ce que ça ne risque pas finalement de freiner son adoption par les pros, qui ont besoin avant tout de fiabilité? C'est un peu ça le cœur du débat, non?
Tout à fait. Et pour en discuter, on s'appuie évidemment sur ce qu'on lit. Les notes de version, qui sont d'ailleurs très très détaillées, la documentation, qui essaie de suivre le rythme, et puis aussi tous les retours, les discussions qu'on voit dans la communauté d'utilisateurs.
Le dissident.
D'accord. Alors, pour clarifier nos rôles, disons que je l'ai plutôt insisté sur les défis, peut-être les risques que ce rythme soutenu implique. Et moi, à l'inverse, je vais défendre l'idée que cette rapidité, eh bien, même si elle demande un effort d'adaptation, elle est essentielle.
C'est vraiment le moteur qui permet à Bonsai d'innover et de se poser comme une alternative sérieuse dans le paysage BIM actuel, qui est quand même dominé par des solutions propriétaires.
Le dissident, bon, très bien. Le cadre est posé, la parole est à vous.
Alors, merci. Oui, moi je suis assez bluffé, il faut le dire, par le volume de travail accompli. Quand on garde les chiffres que j'évoquais, la V08.1, c'est 1902 modifications annoncées. La V08.2, quelques mois après, 654 de plus. Et attention, c'est pas juste des petites corrections, hein, on parle de changements fondamentaux. Prenez le moteur géométrique hybride CGAL OCC.
Le dissident, ah ? Celui qui était « highly unstable » au début.
Exactement. Bon, ils l'ont introduit comme ça, expérimental, très instable. Mais aujourd'hui, il est activé par défaut. Pourquoi? Parce qu'il s'avère plus rapide et plus stable pour beaucoup d'opérations cruciales. C'est quand même une évolution majeure sur un composant technique clé. Ensuite, la création directe d'éléments IFC. Pouvoir modéliser directement en IFC, que ce soit un maillage, une extrusion solide ou même des objets paramétriques, sans passer par des conversions internes complexes, ça change la donne dans le flux de travail. Et puis, ce nouveau mode d'édition d'items géométriques, c'est assez révolutionnaire pour Blender en fait. Ça permet de manipuler les différentes parties d'un objet IFC, genre les différentes extrusions ou les ouvertures dans un mur, de façon indépendante. C'est puissant. Et je ne parle même pas de la visualisation enfin disponible des murs composites multicouches. Ça, franchement, la communauté l'attendait depuis si longtemps.
Le dissident, oui, ça c'est vrai, c'était très attendu.
Voilà. Tout ça, pour moi, ça montre un dynamisme incroyable. Et c'est porté par quoi? Par une communauté avec une liste de contributeurs qui s'allonge, un financement participatif qui, bon, connaît des fluctuations, mais qui a quand même permis d'atteindre les objectifs pour la V08.1. Donc oui, je maintiens. C'est cette vitesse, cette capacité d'innovation rapide qui fait de Bonsai un concurrent sérieux. Le dissident. Alors, je ne vais pas nier le volume de travail, c'est évident. L'enthousiasme est là. Mais regardons un peu l'envers du décor. Cette vitesse, elle a un coût. Vous parlez de CGALEC, oui, il est par défaut maintenant, mais son instabilité initiale a été clairement signalée. Et même dans la version la plus récente, la V08.2, on lit qu'il a fallu pas mal de correctifs, notamment pour assurer la compatibilité avec la future version 4.4 de Blender. Il parle quand même de rupture fondamentale d'outils, de plantage et de bugs spécifiques à certaines plateformes. Ça montre une certaine fragilité, non? Une sorte de course permanente pour s'adapter à l'environnement Blender qui lui aussi évolue. Et puis, les utilisateurs eux-mêmes, on l'entend dans certains tutos, attention, l'interface change, il faut se réhabituer. Quand on introduit près de 2000 nouveautés d'un coup, forcément, ça bouscule les habitudes. Et à côté de ça, les notes de la V08.8.2 mentionnent aussi plus de 1000 issues ouverts, donc des bugs signalés, des demandes en attente. Il y a même un appel à l'aide pour aider à les trier.
Oui, mais ça montre aussi la transparence du projet, le dissident.
La transparence, certes, mais ça montre aussi un volume de travail de maintenance qui est colossal. Et la complexité générale augmente. Cette fameuse édition d'items, aussi intéressante soit-elle, introduit une logique nouvelle, complexe. La syntaxe pour extraire des données avec le tableur intégré, ce n'est pas immédiat. La gestion des presets, ces ensembles de propriétés, y compris comment les assigner au projet lui-même, ça demande de bien comprendre la logique IFC derrière. Et puis, il y a la question de la pérennité, de la soutenabilité de tout ça. Les notes de la V08.2 sont très claires là-dessus. Hein. Les dépenses dépassent les revenus, les dons, les réserves baissent, et ils ont même dû réduire temporairement le financement d'un développeur clé. Alors, on peut se demander, est-ce que ce rythme effréné est vraiment tenable sur le long terme, sans sacrifier soit la stabilité, soit l'expérience utilisateur, soit les deux ? C'est une excellente transition vers notre premier point de discussion, cet équilibre, effectivement délicat, entre la stabilité et l'ajout de fonctionnalités. Vous soulignez les difficultés, et elles existent, c'est vrai, mais je vois aussi des efforts constants pour stabiliser les choses. Le passage à CGL par défaut, justement, ils ne l'ont fait qu'une fois qu'il a été jugé suffisamment stable. Ce n'est pas une décision prise à la légère, j'imagine. Et les notes de version sont pleines de bug fixes, de régressions fixes. On voit qu'il y a un travail de fond pour corriger au fur et à mesure. Et puis l'arrivée de fonctionnalités comme la visualisation des couches de murs composites dans la V0.8.2 avec la gestion des priorités entre matériaux, ça répond à un besoin très concret, très attendu des utilisateurs. Ce n'est pas juste un gadget. D'ailleurs, ils ajoutent aussi des garde-fous comme ces avertissements quand on modifie la géométrie à la main dans Blender sans passer par les outils bonsaï pour éviter de tout casser dans le modèle IFC. L'innovation essaye de s'accompagner de précautions.
Le dissident. Suffisamment stable, l'expression même est intéressante, non ? Elle montre une certaine relativité.
Si on introduit un moteur comme expérimental et très instable, puis qu'on le met par défaut 6 mois après, tout en continuant de chasser les bugs liés, ça illustre bien cette pression du temps. Et ce chiffre, plus de 1000 bugs ouverts dans la V08.2, même si tous ne sont pas critiques, ça reste un nombre très important. L'appel à l'aide pour le tri des bugs, ça montre bien que l'équipe principale est un peu sous l'eau. Les problèmes de compatibilité avec Blender 4.4, ça révèle aussi une dépendance forte et une réactivité qui est parfois difficile à assurer. Mais ma question principale porte sur l'effet cumulé. Ajouter des fonctionnalités aussi structurantes comme l'édition d'items qui permet, si j'ai bien compris, de manipuler les opérations booléennes ou les extrusions qui constituent un objet IFC de façon séparée, ce qui est très différent de l'édition de maillage classique dans Blender. Est-ce que ce n'est pas ouvrir une sorte de boîte de Pandore en termes de bugs potentiels, de complexité de maintenance, même si l'idée est séduisante sur le papier ? Où est-ce qu'on met le curseur en fait ? Est-ce qu'on privilégie l'ajout rapide de capacités avancées, quitte à avoir une plateforme un peu sur le fil du rasoir ? Ou est-ce qu'on ne devrait pas prendre plus de temps pour consolider chaque étape, pour garantir une robustesse à toute épreuve, ce qui est quand même essentiel pour un usage professionnel serein ?
Ah, mais c'est le dilemme éternel du développement logiciel.
Mais si on passe à notre deuxième point, l'expérience utilisateur et la courbe d'apprentissage, là aussi je vois des améliorations continues pour rendre l'outil moins, disons, moins intimidant. Prenez l'outil Polyligne pour dessiner des murs, des dalles. Il a été revu dans la V0.8.1. Meilleure prévisualisation, style plus cohérent, saisie plus fiable. Le système d'accrochage, le snapping, qui est absolument crucial pour la modélisation précise en archi ou ingénierie, il a reçu une vague d'améliorations. Angle personnalisé, accrochage sur des valeurs rondes, sur les objets vides, adaptation au niveau de zoom dans la V0.8.2. C'est très concret pour l'utilisateur au quotidien, ça. On sent aussi une volonté de s'éloigner de certaines habitudes de Blender qui peuvent dérouter les professionnels du bâtiment, comme cette dépendance historique au curseur 3D pour placer les nouveaux objets. Les notes de la V0.8.1 parlent explicitement d'efforts pour simplifier l'ajout d'éléments. Et puis, il y a la documentation. Bon, elle court peut-être un peu après les développements, c'est vrai, mais elle s'étoffe. Il y a un guide de démarrage rapide, des tutoriels vidéo faits par la communauté qui se multiplient sur des points précis comme la configuration du projet, l'extraction de données, la gestion des plissettes. L'interface elle-même, elle essaie d'être plus claire avec plus d'icônes, d'infobulles. Le dissident, attendez, le fait même qu'il faille améliorer autant l'outil Polyligne ou le snapping, ça ne montre pas justement qu'ils étaient perfectibles, voire un peu frustrants avant. Ces améliorations sont les bienvenues, bien sûr, mais elles viennent peut-être combler des lacunes dues à la vitesse de développement initiale. Et malgré tout ça, la complexité de fond, elle demeure. L'édition d'items, j'y reviens, c'est puissant, mais ça demande de comprendre comment Bonsai décompose la géométrie IFC. Shape Aspect pour nommer et styliser des sous-parties d'une géométrie. C'est pointu. La gestion fine des pissettes, de leur type de données, au point qu'il y a eu des demandes pour pouvoir éditer ces fameux data types. Ça demande de plonger dans la structure même de l'IFC. Et la syntaxe des requêtes pour le tableur, même avec des tutos, ça reste un langage spécifique à apprendre. Donc l'utilisateur doit sans cesse se tenir à jour, réapprendre des choses, comme le disait une formatrice dans un tutoriel sur la configuration de projet. Est-ce que la documentation arrive vraiment à suivre ce rythme ? On a vu passer les mentions de documentation instable publiées avec certaines versions. Et puis, il y a cette double courbe d'apprentissage pour beaucoup. Il faut maîtriser Blender, son interface, ses logiques, collections, modificateurs, et maîtriser Bonsai, avec son interface propre, ses concepts spécifiques liés à l'IFC natif. L'exemple que vous donniez, devoir sélectionner l'objet IFC Project dans l'interface Bonsai et pas dans l'outliner de Blender pour lui assigner des presets. C'est typique de cette double logique qu'il faut intégrer. C'est un investissement en temps et en énergie qui n'est pas négligeable. Mais ce n'est pas justement là qu'intervient la force du modèle communautaire. C'est notre troisième point. C'est précisément parce que c'est un projet open source avec une communauté vivante et active que cet outil peut évoluer aussi vite et essayer de répondre aux besoins. Regardez la liste des contributeurs dans chaque annonce, qu'ils soient financiers ou qu'ils apportent du code, de la doc, des tests. Elle est longue, elle est variée, regroupe des individus, des entreprises du secteur AEC, des organisations. C'est quand même la preuve d'un intérêt réel, d'un soutien concret. Le financement participatif, même s'il fluctue, il a permis de financer des développements clés. La prime Bounty pour la visualisation des couches de murs, c'est un bon exemple. La communauté a mis l'argent sur la table pour avoir cette fonctionnalité jugée prioritaire et elle a été livrée. Cette réactivité, cette capacité à intégrer directement les retours, les contributions, c'est un avantage énorme par rapport au cycle de développement plus opaque, plus rigide des logiciels propriétaires. C'est l'écosystème qui fait vivre l'outil.
Le dissident, cette vitalité de la communauté, je ne la nie pas, je vous l'accorde, c'est un moteur, c'est certain. Mais je reste quand même prudente sur la question de la pérennité à long terme de ce modèle, surtout quand on parle d'un usage professionnel stable.
L'alerte financière dans les notes de la V08.2, ce n'est pas anodin. Quand on écrit noir sur blanc, nous dépensons plus que nous ne gagnons via les dons, nous puisons dans nos économies et qu'on doit réduire temporairement le développement sponsorisé pour un contributeur majeur, ce sont des signaux d'alarme, il faut le dire. Ça pose de vraies questions sur la capacité à maintenir ce rythme sur la durée et aussi à fidéliser les développeurs clés qui portent une grosse partie du projet. Cette dépendance vis-à-vis de quelques personnes centrales et des aléas du financement externe, les dons, les sponsorings ponctuels, c'est un risque structurel. Pour une agence d'architecture, un bureau d'études qui choisit un outil BIM, la pérennité de l'éditeur, la visibilité sur les évolutions futures, la garantie d'un support stable, c'est aussi important que les fonctionnalités elles-mêmes. Cette incertitude financière et organisationnelle, même si elle est transparente, ce qui est bien, elle peut être un frein à l'adoption dans des structures qui ont besoin de garanties sur le long terme. La stabilité, ce n'est pas que technique, c'est aussi organisationnel.
C'est un point valide, oui. La pérennité financière, c'est un défi classique pour beaucoup de projets open source ambitieux. Mais lions ça à notre dernier point, cette approche IFC natif et son lien avec la vitesse de développement. Moi, je pense que cette rapidité est aussi la conséquence directe de cette philosophie fondamentale de Bonsai. En considérant l'IFC non pas comme une simple boîte d'exportation à la fin du projet, mais comme le format de travail central, le cœur du système, eh bien Bonsai s'autorise une manipulation beaucoup plus directe, beaucoup plus profonde des données BIM.
L'édition d'items géométriques dont on a parlé, la création directe d'éléments sans conversion, la gestion fine des presets, des relations spatiales, des systèmes constructifs, tout ça devient possible parce qu'on travaille dans l'IFC. Bonsai ne se contente pas d'implémenter le standard IFC, il l'explore, il le pousse dans ses retranchements pour voir jusqu'où on peut aller avec ce standard comme format de travail actif, vivant. Et cette exploration rapide, elle est peut-être nécessaire pour justement démontrer tout le potentiel de l'Open BIM basé sur un IFC qui n'est pas juste un format d'échange mort.
Je comprends l'ambition, faire de l'IFC un format de travail à part entière. C'est très séduisant sur le papier, je suis d'accord.
Mais est-ce que cette focalisation très pointue sur une implémentation profonde et, il faut l'avouer, parfois assez complexe, de toutes les subtilités de l'IFC, l'édition d'items, la gestion des data types, des pièces sets, les shape aspects, est-ce que ça ne se fait pas un peu au détriment d'autres aspects ? Par exemple, une consolidation plus poussée de la stabilité générale ou le développement de fonctionnalités plus classiques attendues par des utilisateurs qui viennent d'autres plateformes et qui ne sont pas forcément des experts de la structure IFC. La complexité de l'IFC lui-même, avec ses différentes versions, 2x3, 4, 4.3, ses vues de modèle, les MVD, n'est-ce pas déjà un obstacle en soi ? On voit d'ailleurs qu'il faut des outils spécifiques, c'est montré dans certains tutoriels, pour convertir un projet d'un schéma IFC à un autre, avec les risques de perte d'informations que ça peut comporter.
Pouvoir monter de version, c'est bien, mais devoir gérer cette complexité des versions, ça ajoute encore une charge pour l'utilisateur. Donc cette vitesse sur le front de l'IFC natif, oui, c'est technologiquement impressionnant, mais ça demande aussi un niveau d'engagement et de compréhension technique assez élevé de la part des utilisateurs pour vraiment en tirer parti sans se perdre en route. Bon. Pour résumer ma position, je dirais que oui, le développement de bonsaï est rapide, il est exigeant, parfois un peu bouillonnant peut-être, mais c'est une force vive. Il apporte des capacités vraiment nouvelles, vraiment puissantes dans l'écosystème OpenBIM, justement en explorant à fond le potentiel de l'IFC natif. C'est une sorte d'aventure technologique, rendue possible par une communauté engagée, qui croit vraiment au potentiel du logiciel libre pour transformer les pratiques dans notre secteur. Les avancées sont là, elles sont significatives et elles ouvrent des perspectives intéressantes. Le dissident.
Et de mon côté, tout en reconnaissant cette innovation et l'énergie déployée, je conclurai que ce rythme effréné n'est pas sans conséquence. Il génère des défis bien réels en termes de stabilité perçue, de complexité d'apprentissage et d'utilisation au quotidien. Et puis, il soulève des interrogations légitimes sur la soutenabilité du projet à long terme, surtout sur les plans financiers et organisationnels. Ce sont des aspects qui doivent être pris en compte, qui doivent être gérés avec soin si l'objectif est une adoption large et sereine par les professionnels, au-delà du cercle, disons, des pionniers et des passionnés de la première heure.
On touche là, je crois, à une tension qui est assez fondamentale dans le développement de beaucoup de logiciels open source ambitieux, surtout dans des domaines aussi techniques que le BIM. C'est cet arbitrage permanent entre la volonté d'innover vite, d'ajouter des dernières fonctionnalités de pointe, et le besoin tout aussi impératif de stabiliser, de simplifier, de documenter et d'assurer la pérennité. C'est un équilibre qui est toujours difficile à trouver.
Le dissident, tout à fait. Et le cas de Bonsai est particulièrement intéressant à suivre parce qu'il illustre très bien cette dynamique. Son évolution future, la manière dont il va naviguer entre ses écueils, sera riche d'enseignements pour tout l'écosystème OpenBIM. Les discussions sur les forums, le chat communautaire, la documentation collaborative, les tutoriels qui apparaissent un peu partout, tout ça montre que le sujet est très vivant et qu'il y a encore beaucoup à dire et sans doute beaucoup à découvrir sur cet outil qui, quoi qu'on en pense, ne laisse personne indifférent.